Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « Restaurer l'Église selon le modèle biblique ». Dans nos études précédentes, nous avons vu les prophéties bibliques d'une apostasie, c'est-à-dire un abandon à grande échelle de la vérité enseignée par Jésus et ses apôtres, avec l'introduction de nombreuses doctrines humaines. Nous avons constaté, en plus, que ces prophéties se sont déjà accomplies. On pourrait dire même qu'elles continuent de s'accomplir de nos jours. Comme nous l'avons vu, il y a dans le Nouveau Testament un modèle à suivre en ce qui concerne l'Église, un modèle qui nous montre le message que l'Église doit prêcher, son organisation, son travail légitime, son culte, ses noms, bref, tout ce qui la concerne. L'homme n'a pas le droit de changer ce modèle, d'altérer ce que Dieu lui-même a décidé. Il en a toujours été ainsi. Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, nous trouvons des versets comme Deutéronome 4, verset 2, qui dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Les effets de l'apostasie sont partout autour de nous. Mais il est bien de signaler que nous ne prétendons pas que l'apostasie ait jamais été universelle, au point de faire disparaître de la face de la terre l'Église que le Seigneur a fondée. En prophétisant au sujet de l'Église, ou royaume, Daniel dit « Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui subsistera éternellement. » Daniel 2, verset 44. Bien que souvent persécuté par les autorités ou ignoré par la majorité d'hommes, des groupes de fidèles qui cherchaient à être tout simplement des chrétiens et à suivre l'enseignement de la Bible seule ont existé dans plusieurs pays au cours des âges, depuis le 1er siècle et jusqu'à nos jours. De tels mouvements, dont plusieurs étaient en existence même pendant le Moyen Âge et bien avant le commencement de la réforme protestante, ont laissé des traces dans l'histoire ou continuent de prêcher la simple vérité en Albanie, Allemagne, Amérique, Angleterre, Arménie, Belgique, Espagne, Finlande, France, Inde, Suisse, l'ex-Tchécoslovaquie et l'ex-Yougoslavie, en Ukraine et ailleurs. Leur but n'était pas de réformer des dénominations d'origine humaine, mais de tout simplement pratiquer le christianisme révélé dans la Bible. C'est l'objectif de plusieurs milliers d'assemblées locales de nos jours, situées dans presque tous les pays du monde et connues simplement comme des églises du Christ. Malgré leur nombre et leur présence un peu partout dans le monde, elles sont très souvent inconnues du grand public. Mais le fait que les livres d'histoire ne parlent pas souvent de ces groupes du passé, ou que les journaux ne mentionnent pas ceux qui sont actifs aujourd'hui, ne réfute pas leur existence. Selon 2 Timothée 2, verset 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais supposez que nous voulons nous conformer au modèle de l'Église contenu dans le Nouveau Testament. Comment pourrions-nous identifier ce modèle? Comment déterminer la nature de l'Église? Pensons un instant à la vie profane. Un tailleur, un menuisier ou un constructeur arrivent à reproduire les modèles qui leur sont fournis en regardant bien un exemplaire, une photo ou un plan, et en prêtant attention aux instructions qui accompagnent l'exemplaire. En tant que chrétiens, nous pouvons identifier le modèle à suivre si, en étudiant le Nouveau Testament, nous recherchons des exemples approuvés, c'est-à-dire des passages qui nous montrent des églises en train de mettre en pratique un enseignement inspiré sous la direction ou avec l'approbation des apôtres, et des commandements ou instructions donnés aux églises aux chrétiens ou à ceux qui veulent devenir chrétiens. En suivant ces exemples et commandements, nous devons respecter le silence de la Bible. Quand un parent donne de l'argent à son enfant et l'envoie à la boutique en lui disant de payer 5 bouteilles de Coca-Cola, l'enfant n'a pas le droit d'acheter également quelques bouteilles de bière et un jouet, simplement parce que son père ne lui a pas dit expressément de ne pas faire ainsi. Le père n'a pas besoin de citer tout ce qu'il ne veut pas. Pour prendre un exemple biblique, le modèle autorise l'emploi du fruit de la vigne et du pain sans levure pour le repas du Seigneur. La parole ne dit rien au sujet de viande et de tomates en ce qui concerne ce repas mémorial, mais ce n'est pas pour cela que nous pouvons ajouter ces éléments. Le silence n'autorise pas à faire tout ce qui n'est pas expressément défendu. Respecter le silence des Écritures signifie également que l'on ne doit pas imposer des devoirs dans la religion qui ne sont pas enseignés dans la parole de Dieu. En suivant les commandements, il faut aussi considérer à quel point un commandement est spécifique ou générique. Par exemple, quand Dieu dit à Noé de construire l'arche, il a précisé « Fais-toi une arche de bois de gopher » Genèse 6, verset 14. Le commandement étant très spécifique, l'utilisation d'autres espèces de bois, tels que le chêne, le pin ou l'ébène, était exclue. Quand Jésus dit par contre « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle » Marc 16, verset 15. L'ordre d'aller est très générique et n'impose pas un seul moyen de transport. On peut aller à pied, en voiture ou en avion, pourvu qu'on aille. Mais en fait, tout ceci relève du sens commun. Ce n'est pas aussi difficile qu'on ne le pense. Si nous prêtons soigneusement attention à ce que dit la Bible, comme les Juifs l'ont fait en ce qui concerne la fête de la Pâque et la fête des tabernacles au temps du roi Josias et de Néhémie, nous pourrons, comme eux, restaurer les pratiques que Dieu a ordonnées, quand bien même qu'elles aient été négligées depuis des siècles. Nous venons d'employer le mot « restaurer ». C'est un mot utile quand nous traitons du problème de l'apostasie. Il évoque en effet toute l'approche que nous voulons recommander. On parle souvent de réformation. Il y a eu par exemple ce qu'on a l'habitude d'appeler la réforme protestante. L'objectif des réformateurs était, au moins à l'origine, de réformer, de changer en mieux ou corriger des abus dans l'Église catholique. Sans vouloir condamner des hommes de grande foi et de bonne volonté, on peut constater qu'en effet de leur travail a été la division. L'Église catholique n'a pas voulu accepter les réformes proposées, et les réformateurs n'étant pas toujours d'accord entre eux quant au degré de modification qui s'imposait, on s'est retrouvé avec une multitude d'églises différentes, distinguées les unes des autres par différents noms, enseignements et chefs. Certaines ne sont pas nées d'un désir de réformer l'Église catholique, mais de réformer une Église protestante qui semblait perdre sa voix. Mais n'y a-t-il pas un problème fondamental dans l'idée de la réformation? Jésus a dit en parabole, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Matthieu 15, verset 13. Si nous reconnaissons que des églises dont nous ne lisons pas dans la Bible sont des plantes que Dieu le Père n'a pas plantées, il est évident que ces églises ne seront pas reconnues par lui. Elles ont des fondateurs humains, et de plusieurs manières, elles ne répondent pas à la description de l'Église dont parle le Nouveau Testament. Au lieu de vouloir réformer ou améliorer des institutions que Dieu n'a pas créées, ne vaut-il pas mieux restaurer ce qui était à l'origine? Ce qui compte ici n'est pas tellement le terme « réformation » ou « restauration ». C'est l'intention de se conformer en tout à ce que le Nouveau Testament nous révèle au sujet de l'Église. Il faut être conscient que nous n'avons ni le besoin ni le droit de créer une Église distincte de celle que Jésus a bâtie. Et il faut avoir confiance que la Bible nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour devenir membres de cette Église et pour organiser des assemblées locales de cette seule Église. Comme nous lisons en 2 Pierre 1, verset 3, Sa puissance divine nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour marcher selon la volonté de Dieu. Parmi les nombreuses dénominations qui se réclament du Christ sont les églises presbytériennes, influencées par le réformateur français Jean Calvin et issues du travail de John Knox, qui vécut en Écosse il y a presque 500 ans. Des millions de protestants aujourd'hui dans plusieurs pays sont membres de dénominations qui sont descendues de ce mouvement de réforme et qui portent le nom presbytérienne. Il y a 200 ans, dans l'État de Kentucky aux États-Unis, les dirigeants d'une de ces dénominations commencèrent à douter du bien fondé de leur existence en tant qu'organisation, qu'ils avaient nommé le presbytère de Springfield. Ce n'est pas qu'ils étaient découragés par la lenteur des conversions. Au contraire, dans la première année de l'existence de cette dénomination, ils avaient présidé à la création d'une quinzaine d'assemblées locales. Mais dans leur étude de la Bible, ils n'ont trouvé aucun soutien pour l'existence d'une église qui était manifestement distincte, non seulement des autres églises modernes, mais surtout de celle qui est décrite dans la Bible. Ces dirigeants ont donc pris une action courageuse et inédite. Ils ont rédigé un document pour renoncer à leur propre autorité religieuse et dissoudre volontairement l'organisation qu'ils avaient créée. Ce document, parfois un peu humoristique, prend la forme du testament d'une personne qui s'apprête à mourir et exprime ses dernières volontés. Le titre du document est en effet « Le testament et dernière volonté du presbytère de Springfield », signé le 28 juin 1804. En voici un extrait. Nous voulons que ce corps meure, qu'il soit dissous et qu'il devienne un avec le corps de Christ. Car il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme aussi nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. Nous voulons que notre nom de distinction, avec son titre révérend, soit oublié et qu'il n'y ait qu'un seul Seigneur sur l'héritage de Dieu et que son nom soit unique. Nous voulons que notre pouvoir de faire des lois pour gouverner l'Église soit aboli à jamais, que le peuple ait libre accès à la Bible et qu'il adopte la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Nous voulons que le peuple prenne désormais la Bible comme le seul guide sûr pour aller au ciel. Vous voyez, je pense, que ces hommes n'avaient pas du tout l'idée de réformer leur Église. Ils avaient décidé que leur Église, n'ayant pas été établie par le Seigneur lui-même, n'avait pas lieu d'exister. Ils voulaient que les hommes soient désormais membres, non pas d'une dénomination, mais de l'Église du Christ. Ils voulaient voir une restauration de l'Église telle qu'elle était au premier siècle. Ce qui compte ici n'est pas tellement le terme « réformation » ou « restauration ». C'est l'intention de se conformer en tout à ce que le Nouveau Testament nous révèle au sujet de l'Église. Il faut être conscient que nous n'avons ni besoin ni droit de créer une Église distincte de celle que Jésus a bâtie. Il faut avoir confiance que la Bible nous révèle tout ce dont nous avons besoin pour devenir membres de cette Église et pour organiser des assemblées locales de cette seule Église. Comme nous lisons en 2 Pierre 1, verset 3, « Sa puissance divine nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour marcher selon la volonté de Dieu. »
Jésus.